Place publique. Faut-il accorder plus facilement le passeport suisse aux jeunes étrangers de troisième génération? On vote, vous le savez, sur cette question le 12 février. Notre débat dans un instant. Les jeunes, encore eux, vont devoir vivre avec moins d'argent s'ils sont à l'aide sociale. Les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura, entre autres, annoncent des coupes dans les subsides. On tentera de mesurer l'impact de cette politique avec une experte de la question. L'aide suisse aux montagnards lance dimanche sa nouvelle collecte de dons. L'occasion de mieux comprendre l'utilité de cette fondation créée il y a plus de 70 ans et qui vit exclusivement de dons, justement. Nous serons dans une ferme des Franches-Montagnes en dernière partie d'émission. Enfin, notre humoriste cette semaine, c'est Barnabé, qui rit de tout, vous l'entendrez, y compris quand c'est rouge à Croix-Blanche.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Ils sont un peu moins de 25 000. Leurs grands-parents ont immigré en Suisse. Leurs parents sont nés en Suisse. Ils ou elles sont nés en Suisse. Ce soir, nous parlons des jeunes étrangers de troisième génération qui résident dans leur pays. Dans notre pays. Faut-il leur permettre d'obtenir plus facilement la naturalisation? C'est la question qui nous est posée le 12 février en votation populaire. On en débat avec nos deux invités. Tout d'abord, Yvan Perrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez actuellement l'UDC Neuchâteloise. On vous connaît aussi. On vous a connu comme conseiller national UDC, mais aussi comme conseiller d'État. Et avec nous également, Giuseppe Natale, bonsoir. Bonsoir, on vous entend à peu près bien.
Bonsoir.
Voilà, super, on vous entend très bien, très bien. Je vais faire un peu votre CV parce qu'il est intéressant, il est directement lié à ce dont on va parler. Alors, vous dirigez un bureau d'ingénieur à Delémont. Vous êtes fils d'immigrés italiens arrivés dans le Jura dans les années 60. Vous êtes naturalisé suisse en 2006, très engagé en politique jusqu'à l'année dernière dans les rangs du CSPOP, un parti de gauche jurassien. Vous êtes notamment l'un des quatre premiers élus étrangers dans un législatif en Suisse. C'était en 2000 au conseil de ville de Delémont, un conseil que vous avez, sauf erreur, présidé. Et une fois suisse, vous avez été élu pour deux législatures au Parlement jurassien. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce parcours biographique express ?
Oui, tout à fait. Un bon parcours express que vous venez de faire là, c'est tout à fait juste.
Vous avez obtenu la nationalité suisse, donc, après en avoir fait la demande. Vos enfants sont donc suisses. Pourquoi vous demandez un changement de système ? Ou vous soutenez un changement de système ? C'est pas vous qui le demandez personnellement.
Exactement. Oui, je soutiens un changement de système parce que j'estime, si on remet dans le contexte, la troisième génération, ça situe entre 50 et 60 ans plus loin. Et la première génération, c'était nos parents qui sont venus en Suisse, ils étaient là établis et leur objectif c'était de venir travailler en Suisse parce qu'ils n'avaient plus rien à faire dans leur pays, il n'y avait pas de travail, ils mouraient de faim, c'était après la guerre. Et maintenant, eux, l'objectif de mes parents, c'était d'un jour retourner en Italie. Et ensuite, les enfants sont nés, mes parents, ils ont eu trois enfants, on a grandi dans le Jura, on a fait nos études, et après, la discussion est venue, qu'est-ce qu'on fait? Puis nous, notre priorité, c'était pas de retourner, on était engagés au point de vue sportif, culturel et professionnel dans le Jura, on aime cette région, et on a décidé, mes parents ont décidé de rester avec nous ici, et de plus rentrer. Donc la deuxième génération, on voit qu'il y a déjà un grand changement de mentalité par rapport à la première. Et la troisième, c'est encore beaucoup plus loin. Donc, ce sont mes enfants, donc qui sont rarement allés en Italie, vu que mes parents sont ici, les grands-parents des deux côtés sont en Suisse. Donc, ils ont un éloignement beaucoup plus loin. Donc, ils n'ont plus d'attache, je dirais, avec l'Italie. Et en demandant cette facilité, en demandant vraiment que la troisième génération, c'est vraiment parce que on estime, en tout cas j'estime, que ces enfants-là sont par entière des Suisses. Donc ça doit être pour moi une formalité, on doit pouvoir demander la nationalité et une formalité de l'obtenir. Et ça, à mon avis, c'est très important qu'on puisse, qu'ils soient par entière intégrés dans notre système.
Yvan Perrin, vous l'entendez, hein, tout ce qui peut se passer en trois générations, c'est aussi trois générations, c'est trois degrés d'intégration qui va en augmentant. Pourquoi refuser que cette troisième génération qui se sent intégralement suisse et intégrée ne puisse pas plus facilement obtenir la naturalisation?
Alors je crois que le mot important qui a été prononcé, c'est formalité. Pour nous, obtenir le passeport suisse n'est pas une formalité, c'est un processus politique qui octroie aux requérants des droits politiques très élargis par rapport aux autres pays. Et pour nous, il y a une différence entre obtenir la nationalité suisse ou aller chercher son permis de pêche à la gendarmerie. C'est pas du tout le même niveau. La nationalité suisse octroie de larges droits, elle octroie aussi des devoirs, et nous estimons que c'est un processus politique qui doit le rester. le postulat selon lequel les gens sont intégrés est erroné, et supposer l'intégration, c'est renoncer à l'exiger, puisqu'on part du principe qu'elle est acquise.
Alors, il y a quand même une demande hein, dans ce projet sur lequel nous votons. La demande reste, et apparemment les cantons aussi auraient toujours un droit de regard. Pour vous, c'est trop bradé ?
Écoutez, les cantons ont un droit de regard. Imaginez un requérant en ville de Lausanne. Pensez que depuis le château, ils vont vérifier si la personne parle français. Et le Parti Socialiste l'avoue lui-même, n'est-ce pas ? Puisque leur plaidoyer en faveur de la naturalisation et l'invitation aux gens à aller voter est publié en une douzaine de langues. Donc, manifestement, le Parti Socialiste appelle des gens naturalisés dont la maîtrise d'une langue nationale n'est pas suffisante pour comprendre leur message. Moi, j'ai de la peine à imaginer qu'on puisse s'intégrer dans une communauté sans parler la langue.
Giuseppe Natale, vous le comprenez, vous l'avez entendu comme nous, une réaction de votre part ?
Oui, bien sûr, parce que je crois que le débat, il faut recentrer le débat, on parle de la troisième génération, les gens parlent. Ils sont grandis ici, les écoles, déjà la deuxième génération, on est intégrés, on sait tout sur nous, on paye nos impôts là, on a fait nos scolarités là. La troisième génération, c'est encore beaucoup plus loin. Je crois que c'est vraiment un faux débat de dire que c'est le requérant de la page de CESU qui vient demander sa autorisation puis on ne connaît rien. Mais c'est vraiment un faux débat. Ça, c'est mon avis, c'est illusoire de pouvoir parler de cette manière-là. Il faut vraiment recentrer le débat et de savoir de qui on parle. Là, c'est totalement délibéré de dire que c'est le requérant ou bien de dire que c'est la personne qui est arrivée avant-hier de l'Albanie, de l'Italie, d'Amérique ou je ne sais où, et on va lui donner un permis. Non, il y a un processus, vous l'avez dit clairement, il y a une demande à faire et cette demande peut toujours être refusée. Mais quand on parle des enfants de la troisième génération, alors aujourd'hui, on sait que plus de la moitié, ce sont des gens qui viennent d'Italie. Ces gens-là, ils sont venus aussi pour travailler, pour aider. J'ai lu dernièrement, il y a 60 000 immigrés qui sont arrivés en Suisse. Plus de la moitié viennent pour travailler parce qu'on a besoin d'eux pour travailler. Et l'autre, 35% viennent pour faire le regroupement familial. Et ça, c'est aussi important. Si vous voulez avoir une intégration efficace, et dans les règles de l'art, il faut absolument que les familles soient regroupées. Et là, les enfants, vous croyez que les enfants des grands-parents qui sont venus là, qui ne savaient pas la langue, et qui ont dû s'intégrer, qui l'ont fait d'une formidable manière, on parle des exemples des Portugais, des Italiens et des Espagnols, des exemples que je connais très bien, que j'ai vécu, et on parle de leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors de dire que c'est récurrent, je trouve que c'est un peu...
Qui requiert la nationalité, hein, c'est un...
Oui, exactement.
Mais ça peut faire penser à requérant d'asile. Yvan Perrin, vous craignez quoi, au fond ? On parle quand même, plus de la moitié sont des Italiens, c'est bien sûr des personnes, on en a tous dans notre entourage très très bien intégrés. En plus, il y a toujours des critères hein, qui sont requis, c'est des jeunes jusqu'à 25 ans, nés en Suisse, qui ont suivi une scolarité obligatoire, qui ont des parents qui doivent avoir séjourné en Suisse, des grands-parents aussi. Impossible aussi pour ces jeunes qui ont fait la demande de se faire naturaliser s'ils sont à l'aide sociale. Enfin, il y a quand même des critères qui garantissent qu'il n'y ait pas d'abus à vos yeux. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour autant ?
La situation actuelle convient très bien, n'est-ce pas ? Les personnes qui remplissent les critères obtiennent la naturalisation sans grande difficulté. On a supprimé bon nombre d'obstacles au fil des années, mais nous estimons, encore une fois, que ce processus doit rester ce qu'il est, c'est-à-dire un processus politique. La communauté suisse accueille une personne, lui octroie des droits et des devoirs, et nous estimons qu'on est en droit de contrôler qui on accepte.
Très bien, on va continuer ce débat, mais avant cela, on va prendre le temps de s'informer. C'est le rappel des titres qui nous est présenté par Jean-Paul Picci.
Bonsoir. La femme tuée mercredi soir à Reconvilly est une Kenyane âgée de 30 ans. Dans un communiqué envoyé ce soir, la police cantonale et le ministère public précisent qu'elle a succombé à de graves blessures provoquées par un objet contondant. L'autopsie effectuée par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne le confirme. Un couteau a notamment été séquestré par la police cantonale. L'enquête doit encore établir si et dans quelle mesure il s'agit de l'arme du crime. Le suspect, un Américain de 31 ans, se trouve en détention provisoire. Il devra répondre de ses actes devant la justice. 19%, c'est la différence entre le salaire d'une jurassienne et celui de son homologue masculin en 2014. Un écart supérieur à la moyenne suisse qui tourne autour des 15%. Le gouvernement jurassien s'est engagé à remédier au problème dans son programme de législature 2016-2020. L'accès à la naturalisation va subir d'importants changements dès 2018 sur le plan fédéral. Le Grand Conseil neuchâtelois doit se prononcer prochainement sur une adaptation du droit de cité face aux nouvelles exigences de Berne. Si le texte est validé, seuls les détenteurs d'un permis C pourront prétendre à la naturalisation à l'avenir. Les candidats ne devront pas être à l'aide sociale, devront encourager l'intégration de leur famille ou encore présenter un certain niveau de connaissance du français et de la Suisse. Une plateforme pour trouver les explications et les arguments des partis sur les objets soumis en votation, née d'une initiative citoyenne, SwissVote veut stimuler l'intérêt pour l'exercice démocratique. Le projet a été présenté aujourd'hui à Bienne. L'un de ses concepteurs précise que le portail est bilingue et 100% neutre. Prudence sur les routes, du brouillard givrant est attendu sur une partie de la région et le long du Jura jusqu'à vers 800 mètres. Demain, la grisaille devrait se dissiper progressivement. Des gels quasi généralisés en journée et doux sur les hauteurs. Il fera entre 1 et 6 degrés au maximum. Votre prochain rendez-vous avec les informations, c'est le Flash à 19h. Très belle soirée.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Et on poursuit notre débat sur la naturalisation facilitée. Avant de retrouver nos deux débatteurs, Yvan Perrin et Giuseppe Natale, on accueille Barnabé. Bonsoir.
Et mais bonsoir, Gab. Alors, ce soir, effectivement, on parle de la facilitation, pardon, c'est pas facile, hein. La naturalisation facilitée. Bon, on sent bien que depuis le début, on veut nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Pas voiler les roues. Hein. Attention, non, des roues bien suisses, à laine blanche. Et c'est vrai que c'est un sujet assez épineux, difficile. Hein. Il y a le pour, il y a le contre, il y a les exceptions. Bah, par exemple, une femme dont les grands-parents étrangers seraient venus en Suisse vivre et travailler et qui, une fois installés dans les années 70, ont des enfants. Ces enfants se rencontrent sous les bancs du gymnase. Oui, parce qu'à l'époque, c'était le gymnase, hein, c'était pas le lycée. Ces enfants tombent amoureux et on leur tourne une fille. Début 2000, par exemple. Hein. Ah oui, j'oubliais. Et cette famille est musulmane. Voilà, on a la liberté de culte en Suisse, donc hein, on s'en fout. La question, peut-on prendre une photo et la mettre en affiche? Eh bien, la réponse est oui, mais personne ne l'a trouvé. Non, mais ça c'est pour le détail, c'est l'exception. Revenons donc au vrai fond. Faciliter l'obtention d'un passeport à des gens qui peuvent avoir ce passeport et qui, quand ils font la demande, l'obtiennent à chaque fois. Hein, c'est juste que l'administration est un peu lourde pour quelque chose qui coule de source. Ces gens qui ont un accent encore plus prononcé que le mien. Hein, je vous présente Juan da Silva dos Santos, informaticien, ou alors Giulia Comanetti, architecte d'intérieur. Respectivement portugais et italienne, mais pourquoi pas suisse? Hein? Ben, la réponse est toujours la même quand on leur demande « Oh, ben, tu sais, j'ai pas pris le temps de vous faire la demande. Hein? » Alors moi, je dis non. Hein? Pourquoi moi, je devrais me faire chier à devoir répondre à des questions saugrenues et prises de tête envoyées par l'État tous les 3 mois, et pas eux? Hein? Non, mais c'est vrai, cette fois, pour les votations, j'ai une question, la RIE3, où on me demande un truc hyper compliqué, où je comprends pas les tenants et les aboutissants. Je sens bien qu'à la fin, je vais me faire avoir. Hein? C'est un petit peu genre le contribuable minable. T'as le choix entre te faire couper la jambe droite ou la jambe gauche. Je peux pas garder mes deux jambes. Attends, sois contente, en démocratie, tu peux déjà choisir quelle jambe on te coupe. Et de l'autre côté, j'ai une deuxième question. Faciliter la naturalisation de la troisième génération, mais pour les rendre suisses d'office. Non. Hein. C'est juste que s'ils demandent, ce sera juste plus facile, plus rapide et moins cher. En gros, on me demande si je veux un sparadrap bleu ou rose sur mon petit bobo au doigt. Alors bon, je dois prendre le temps de répondre aux deux questions avec le même sérieux, tandis qu'eux, ils peuvent regarder le foot à la télé, c'est super, génial. Alors moi, je dis, pourquoi pas eux, ne seraient-ils pas aussi punis avec des questions à la con? Hein. Bon, ben moi je suis pour, hein. Car j'en ai ras-le-bol que quand je sors le soir, dans les bars, il y a eu des fumeurs de troisième génération qui me demandent ma carte d'identité pour s'acheter des clopes à l'automate. Et oui, parce qu'il faut toujours la carte d'identité et ils l'ont pas. Donc du coup, moi je dis maintenant, c'est fini.
Barnabé, merci.
Place publique.
Eh bien, une réaction, Yvan Perrin, à ce que vous venez d'entendre. Apparemment, on voterait sur une forme de sparadrap. Une question un petit peu accessoire par rapport à l'essentiel. Est-ce que vous rejoignez Barnabé?
Alors, vous imaginez bien que non. Non, pour nous, la question de la nationalité suisse, ce n'est pas accessoire. C'est très important. Nous sommes le pays qui octroie le plus de droits démocratiques à ses citoyens. Un citoyen suisse a plus de droits qu'un parlementaire européen. Et nous estimons que cette démarche doit faire l'objet déjà d'une volonté et ensuite d'une vérification. Et quand on dit les critères demeurent, je veux bien que les critères demeurent, mais puisqu'ils sont supposés acquis, on ne vérifie plus. Et qui ira passer derrière pour vérifier que la personne parle le français ou que sais-je ? Personne ne le fera. Donc, il y aura encore peut-être un léger contrôle social.
À la troisième génération, quand même, on est censé parler le français le plus souvent, non ?
Vous avez dit le mot juste, censé. Censé. Mais encore une fois, le Parti Socialiste admet que ce n'est pas le cas, puisqu'il a jugé utile de traduire en 12 langues son plaidoyer pour la naturalisation. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Je vous laisse vérifier, c'est imprimé de cet après-midi.
Alors, je confirme, j'ai un imprimé en arabe du PS avec son argumentaire. La démonstration est faite. Yvan Perrin, quand même, sur ces affiches dont on a beaucoup parlé durant la campagne, on voit une femme voilée intégralement. Est-ce qu'on parle vraiment de ces jeunes de la troisième génération ? On en doute, on n'en a pas trouvé. Barnabé l'a rappelé tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, là, dans cette communication, une forme d'amalgame et de peur irréaliste en l'occurrence?
Non, ce n'est ni un amalgame, ni une peur, c'est juste une vision d'avenir. Et quand on parle des Italiens, des Portugais, des Espagnols, il faut mentionner déjà qu'en deuxième position, nous avons les Turcs. Les Turcs qui ont quand même, sur bien des sujets, une vision assez différente de la nôtre, de la société. Et donc, supposer que quelqu'un qui a été nourri aux mamelles d'une religion qui est incompatible avec la nôtre, est agréé, pour nous, c'est forcément erroné.
Qu'est-ce que vous dites à tous les Suisses qui pratiquent l'islam ?
Alors, je dirais pour ceux qui le pratiquent de manière intime, qu'il n'y a aucun problème.
Donc c'est possible ?
C'est possible.
Donc ces Turcs dont on parle peuvent être islamiques sans être extrémistes ?
Il y en a, mais c'est heureux. Mais ce n'est pas ceux-là qui posent problème. C'est ceux qui viennent pour faire du prosélytisme avec les fonds du Koweït, du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Et on sait que ce n'est pas l'islam le plus tolérant que ces gens professent.
Giuseppe Natale, une vision d'avenir, une vision inquiète de l'avenir avec possiblement des jeunes de troisième génération qui seraient élevés aux mamelles du fondamentalisme islamique. Est-ce que ça, selon vous, c'est une peur qui est légitime ?
Oui, je pense que c'est vraiment irréaliste. Ils font peur aux gens, c'est vraiment dans leur communication. Vous vous rendez compte, là, ils parlaient justement du français, que c'est censé, puis qu'un document est traduit en 2 ans. Mais il s'adressait à qui, ce document ? Il s'adressait aux parents et aux grands-parents de la première génération qui doit voter pour leurs petits-enfants aussi. Et puis ces gens, si je prends le cas de mes parents, ils parlent bien français, mais ils ne comprennent pas tous les tenants et aboutissants. Donc il faut toujours recadrer les sujets. Et ils prennent toujours un malin plaisir de toujours tout dévier, de toujours tout peindre en noir. Et puis ça, moi, je trouve que c'est vraiment inadmissible. Ils oublient que les lois, elles sont parfaites, les lois figées jusqu'à la date éternelle. On change les lois régulièrement, il y a des votations. Et si la loi dit dans la vision d'avenir très noire que M. Perrin, et c'est dommage pour lui, moi j'ai une autre vision d'avenir. Moi j'ai une belle vision d'avenir et je sens que le multiculturalisme des gens, la différenciation qu'il y a entre les gens, la richesse qu'on peut trouver dans des gens de toute nationalité, c'est une richesse que la Suisse a et ne se rend pas compte. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, regardez si le pays va aussi bien, c'est grâce aussi à tous ces gens qui sont autour de nous, qui sont bien intégrés de toutes les nationalités et qui aiment ce pays et souvent s'en oublient. Et pour ça de dire qu'on a une vision d'avenir et puis qu'on pense à l'avenir dans 30, 40 ou 50 ans, on voit déjà le mal qu'il y a entre la première et la troisième génération des Italiens pour faire changer une loi, ça fait 60 ans, vous vous rendez compte? Et puis maintenant, on vient nous dire qu'on prépare l'avenir de nos enfants. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi.
Pourquoi, selon vous, on va conclure, Giuseppe Natale, mais pourquoi, oui, selon vous, c'est nécessaire de faciliter la demande de naturalisation alors que le système actuel, finalement, permet de l'octroyer sans trop de difficultés? Pourquoi, selon vous, c'est si important? Et est-ce que vous ne comprenez pas ceux qui craignent que tout ça va devenir, encore une fois, une formalité et que les communes et les cantons, à savoir les collectivités les plus proches de l'individu, n'auront plus leur mot à dire? Pour conclure, qu'est-ce qui vous fait quand même plaider pour cette... loi.
C'est une pierre qui manque à l'édifice pour cette loi, c'est une pierre qui manque à l'édifice pour vraiment la reconnaissance de tout ce qui s'est fait des 3 premières générations. Et comme je répète, c'est une demande, on peut la refuser ou l'accepter, c'est pas automatique, c'est une demande de la 3e génération, on parle des gens qui sont là, venus, des grands-parents après 60 ans, et recentrez le débat s'il vous plaît, et ne dites pas que c'est des gens qui sont arrivés hier qui ne parlent pas français. Restez humbles et soyez honnêtes avec ce débat.
Je pense avoir été honnête, c'est pas moi qui ai traduit votre plaidoyer en 12 langues, n'est-ce pas? Donc manifestement, vous admettez que la clientèle que vous visez n'est pas en mesure de comprendre un texte simple dans une de nos langues nationales.
La clientèle, j'ai répété, j'ai dit que c'est les grands-parents et les parents peut-être qui ont des difficultés de compréhension, et je trouve que c'est très bien, ça montre une grande ouverture. De rester cloisonné tout seul à la maison, on n'apprendra rien. Si on sort un peu de la maison et on va se promener dans la rue, on va apprendre aussi beaucoup de choses. Et pourquoi ils ont traduit en plusieurs langues? C'est simplement pour donner aux grands-parents la possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est, et puis que la Suisse en avance et qu'il va faire beaucoup de choses pour les petits-enfants, et que c'est bien d'accepter cette demande de facilité. Et c'est une demande qui doit être faite. Donc, si vous avez une demande, comme je répète, on peut l'accepter ou la refuser. C'est pour ça que je ne vous comprends pas pourquoi, pour vous, 60 ans après que les parents sont venus, vous refusez encore. Je ne comprends toujours pas.
Le mot de la fin pour Yvan Perrin. Il y a eu d'autres propositions pour faciliter la naturalisation, voire la rendre automatique. Là, on a quand même une proposition qui s'adresse à un public en particulier dont on a vu, dont on peut penser qu'ils sont mieux intégrés que d'autres. Il ne s'agit pas d'une naturalisation automatique. Qu'est-ce qui, malgré tout, Yvan Perrin, vous fait plaider pour le non? C'est le mot de la fin.
Encore une fois, c'est transformer un acte politique en acte administratif, et pour nous, la nationalité suisse, elle a un contenu politique majeur qui doit être respecté. C'est pas, encore une fois, le permis de pêche.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus débattre de cet objet. Donc, le mot de la fin, c'est évidemment le peuple qui va l'adresser. Ce sera le 12 février. N'oubliez pas d'aller voter. On vous souhaite une bonne suite de soirée, messieurs. Merci d'être venus dans Place Publique.
Merci.
Merci, bonne soirée.
Place Publique.
Les jeunes adultes à l'aide sociale vont devoir se serrer la ceinture, leurs subsides vont baisser. Les trois cantons de Berne, Neuchâtel et du Jura annoncent des coupes, parfois importantes, surtout pour les jeunes entre 18 et 25 ans. À quelles conséquences doit-on s'attendre? Est-ce qu'augmenter la pression peut motiver ces jeunes à retrouver du travail? Ou au contraire, est-ce qu'on risque de les faire basculer dans la pauvreté ou l'illégalité? Autant de questions qu'on a envie de vous poser, Martine Courte. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale de l'ARCIAS, l'association romande et tessinoise des institutions d'action sociale. Vous êtes en pointe dans ce domaine que vous analysez depuis 16 ans. Ces coupes interviennent à un moment qui n'est pas anodin, à un moment qui suit une décision qui a été prise au niveau des cantons suisses. Donc c'est pas pour rien si les trois cantons de l'arc jurassien annoncent de telles coupes en ce moment, ou des projets qui visent à le faire.
Oui, alors en fait, il se trouve qu'à la suite de pressions, notamment venues de Suisse alémanique, la Conférence suisse des institutions d'action sociale, l'ACSIAS, qui édicte les normes d'aide sociale, parce que je rappelle que dans un pays fédéraliste, l'aide sociale n'est pas de compétence fédérale, elle est de compétence cantonale, voire communale, selon les régions. Et donc l'ACSIAS a modifié les normes de l'aide sociale en 2015, en fait pour le 1er janvier 2016 et pour le 1er janvier 2017, deux révisions coup sur coup, qui ont été demandées et validées par la conférence des chefs de département au niveau suisse des affaires sociales.
Et quelle était la motivation première ?
Alors la motivation première, elle était de faire face à certains problèmes, et notamment effectivement sur les jeunes. Ces révisions ont visé certains jeunes, parce que c'est pas les jeunes en général, ce sont ceux qui sont visés là, ce sont les jeunes qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas en formation, qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui n'ont pas de charge de famille, et qui vivent seuls, qui vivent pas dans leur famille. Donc en fait, on n'est pas sur tous les jeunes, on est là en l'occurrence sur une perception plutôt de dire que l'aide sociale, c'est pas un projet de vie.
Et est-ce que justement diminuer ces subsides, c'est une manière pour ces jeunes de rendre justice à l'activité lucrative, à l'effort qu'il faut faire pour se former, pour entre guillemets se bouger? Et est-ce que c'est ça le but qu'on veut obtenir?
Ce qu'on observe de façon générale, c'est qu'en général, il y a une espèce de transfert qui s'est fait pour cette catégorie de population entre les montants à leur disposition, qui ne sont plus forcément ce qui leur est distribué, mais davantage donné sur des mesures d'insertion, d'intégration, de formation. Le but quand même, et c'était notamment le cas du projet Forjat dans le canton de Vaud, ça l'est toujours, c'est d'amener le maximum de jeunes en formation, avec au minimum une attestation fédérale ou un CFC, c'est donner de l'espoir, c'est de donner une chance. Après, encore faut-il que le marché insère.
Et de toutes parts, hein, on a l'air d'accord avec ce qui est en train de se passer. Nathalie Barthoulot, ministre jurassienne socialiste, ou encore Beat Ferrer, municipale UDC de la ville de Bienne, disent la même chose. Ils considèrent que la pression a du bon pour encourager ces jeunes à trouver un emploi. On parle quand même d'une baisse d'argent qui risquent de les placer dans la précarité ?
Alors, je pense qu'il faut juste remettre en contexte aussi. Le problème aujourd'hui de l'aide sociale, c'est qu'elle est très critiquée et qu'en fait, les besoins d'aide sociale aujourd'hui augmentent alors que les moyens ne suivent pas. Les besoins, ils augmentent notamment parce qu'on a diminué les prestations des assurances sociales, essentiellement l'assurance invalidité et l'assurance chômage. On tient, nous, une statistique avec les cantons romands sur mensuel, mois par mois, sur les entrées à l'aide sociale ou les sorties, etc. On a vu en mai 2011 un pic dans tous les cantons romands. C'était l'entrée en vigueur de la LACI, de la modification de la loi sur l'assurance chômage. Donc, on a là une augmentation du nombre de personnes qui n'ont pas d'autres ressources que l'aide sociale. Je rappelle aussi qu'en Suisse, on n'a pas d'assurance perte de gain maladie obligatoire. Donc, vous tombez malade. Si vous êtes dans votre entreprise depuis moins de 20 ans, vous aurez droit à moins de 6 mois de congés payés en cas de maladie. Donc, ça aussi, ce sont des éléments qui amènent des gens à l'aide sociale. Après, évidemment, on a une augmentation de la population dans ce pays. Donc, à taux stable d'aide sociale, l'augmentation de 100 000 personnes par année, ça amène de fait automatiquement quasiment 3 000 bénéficiaires de plus. Donc voilà, il y a des besoins de plus en plus importants. Et en fait, l'aide sociale, elle est financée essentiellement par les impôts des communes et des cantons qui n'arriveront pas forcément à faire face. Donc, dans la mesure où on n'arrive plus à faire face, on diminue les prestations. Moi, je milite pour que la Confédération participe au financement de l'aide sociale aujourd'hui de manière à ce qu'on puisse répondre aux besoins.
Dans ce que vous avez observé, quand il y a quand on rend les conditions plus difficiles, est-ce qu'on observe, par rapport à la première question qu'on se posait, est-ce qu'on observe un mouvement de sortie de l'aide sociale ? Est-ce qu'effectivement, on le voit dans les chiffres, quand on durcit, quand on baisse les subsides, on encourage les bénéficiaires à trouver autre chose ?
Alors, on crée surtout beaucoup de détresse. On crée aussi ce que j'appelle, moi, les nouveaux esclaves, et on l'a vu dans le domaine de l'aide sociale avec les personnes étrangères. On a durci énormément et aujourd'hui, le fait de dépendre de l'aide sociale est à la fois un motif de retrait d'un permis de séjour ou d'un permis d'établissement. On va plus loin, le Parlement est allé plus loin, puisque dans le cadre de la loi d'application de la votation sur l'immigration de masse, alors qui est aujourd'hui soumise à référendum, mais on a même prévu qu'on ne donnerait plus de permis C à des personnes qui sont à l'aide sociale. C'est-à-dire que ça pourra pas... On va être très attentif à ça. Donc, ce que l'on fait là, c'est qu'en fait, on crée des gens qui, pour maintenir leur permis de séjour, sont prêts à travailler à n'importe quelle condition. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ?
Alors, vous pensez que l'aide sociale, selon qu'on baisse les subsides, a une incidence, par exemple, sur le niveau des salaires ? C'est ça qu'il faut comprendre ?
Alors, je pense qu'on a toujours dit le travail doit payer. Moi, je réponds toujours oui, alors qu'on paye le travail. Parce qu'en fait, on dit oui, alors les montants de l'aide sociale sont trop élevés par rapport aux salaires les plus bas. Très bien, on baisse. On ne s'occupe pas tellement de savoir de quoi on a besoin pour vivre aujourd'hui. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les montants de l'aide sociale. Et du coup, ça permet de ne pas augmenter les salaires. Les attaques sur l'aide sociale ne sont jamais gratuites. Et en fait, quand on attaque l'aide sociale, on attaque tous les citoyens et les citoyennes et les salariés de ce pays. Et je pense que ça, il faut le garder en tête toujours. Ça peut nous arriver à tous demain.
Martine Courte, vous nous avez dit, quand on préparait l'émission, que les principaux bénéficiaires de l'aide sociale, ce n'étaient pas ces personnes dont on parle, c'était principalement les propriétaires et les entrepreneurs ou les entreprises. Expliquez-nous.
Oui, ça dépend des régions. Des coûts de l'aide sociale sont des coûts de loyer. Donc en fait, quand les loyers augmentent, les coûts d'aide sociale augmentent et ils prennent sérieusement l'ascenseur depuis quelques années. Donc tant qu'on ne régule pas le marché immobilier d'une manière un peu sérieuse, je rappelle que le toit est un droit, ça n'est pas un marché comme un autre. Tant qu'on ne régule pas ça, évidemment, c'est plus facile d'enlever 20 francs à quelqu'un. Mais dans la réalité, ce serait beaucoup plus efficace de limiter les coûts de loyer et de limiter les coûts de logement pour tout le monde, d'ailleurs. Alors, les coûts d'assurance maladie augmentent aussi. Ça représente des coûts importants dans l'aide sociale. Et puis, les working poor, c'est-à-dire les salaires qui sont trop bas pour vivre décemment. Et ça, en fait, c'est une forme de subventionnement de certaines entreprises ou de certains employeurs par le biais de l'aide sociale. Je pense que ça, il faut le dire, parce que ce qu'on observe, c'est qu'on a baissé les montants de l'aide sociale déjà en 2005, les montants à disposition des bénéficiaires, et les coûts par bénéficiaire, les coûts moyens, ont augmenté dans cette période-là. Donc, le résultat, il n'est pas probant.
Merci beaucoup Martine Courte d'être venue dans Place Publique nous aider à décrypter les conséquences de ces baisses de l'aide sociale donc décidées dans les trois cantons, notamment de l'arc jurassien. On vous souhaite une bonne suite de soirée.
Merci à vous aussi.
Place Publique.
Et on se rend maintenant dans les franches montagnes, au lieu dit des CUFAT, sur la commune jurassienne du Bémont. On est à l'heure de la traite, hein, au domaine agricole, et malgré tout, on vous retrouve, Gabriel Reiss.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, comment ça se passe avec les vaches ce soir? Elles sont de bonne humeur?
Elles sont de bonne humeur, tout se passe bien, mais oui, merci.
Pas trop froid?
Ah ben, il fait un peu moins froid que ces jours passés.
Bon, bah tant mieux. Alors, si on est avec vous, c'est pour parler de l'aide suisse aux montagnards, hein, une fondation qui lance sa collecte 2017 ce dimanche. Pour avoir une idée, en 2016, cette fondation, financée exclusivement par des dons, a soutenu 561 projets en Suisse pour un montant de 25 millions de francs. Et ce, dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, du bois, de la forêt, de la formation, de l'énergie, du commerce, de la santé, de l'aide d'urgence. Alors, pour se rendre compte du type d'aide fournie, il y a votre histoire, Gabriel. Vous avez obtenu une aide après l'avoir demandée, heureusement, car sinon, vous auriez dû renoncer à votre élevage de chevaux. Racontez-nous.
Alors, l'aide suisse aux montagnards, bien sûr, apporte son soutien aux agriculteurs de montagne quand les idées sont là pour des projets prospères et durables. Donc, assurés sur le long terme, mais qu'une partie des moyens font défaut, une partie des liquidités font défaut. Alors, bien sûr, pour obtenir cela, il faut avoir une bonne gestion d'entreprise, puis une étude économique qui prouve que le projet est viable et durable.
Et votre projet, encore une fois, il était en fait, c'est pas un projet de confort, hein, c'était un projet obligatoire si vous vouliez continuer à élever vos chevaux.
Exactement, dans notre cas, le mode de détention des chevaux dans l'ancienne écurie n'était plus conforme à la législation en vigueur. C'est pourquoi l'Institut aux montagnards nous a soutenus afin de réaliser ce nouveau bâtiment pour la détention de nos chevaux. Cette nouvelle infrastructure, justement, nous offre désormais des conditions de travail optimales et nous permet de continuer d'offrir des activités agrotouristiques de qualité.
Alors, on parle beaucoup de la pression des prix vers le bas, hein, qui complique sévèrement votre tâche, la tâche des agriculteurs. Il y a donc aussi des normes, hein, qui évoluent pour le bien-être des animaux, on peut s'en réjouir, mais qui coûtent cher. Hein, c'est pas toujours simple de trouver de l'argent.
C'est pas toujours simple, justement. Ben justement, ça fait 40 ans que je tiens le domaine, pour commencer, il a fallu mettre toutes mes économies pour pouvoir partir avec ce projet. Puis ensuite, j'ai eu plusieurs aides. Et puis, bien sûr, l'aide aussi de nos banques pour vraiment arriver au terme de ce joli projet qui nous fait quand même tout à fait plaisir.
Qu'est-ce qui a fait que l'aide suisse accepte de vous soutenir? J'imagine qu'il y en a d'autres, hein, des demandes, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est aussi pour récompenser justement vos efforts de diversification, hein? Vous avez parlé d'agrotourisme, d'élevage.
Oui, tout à fait. Donc, ils prônent justement, en ce moment, ils prônent beaucoup l'agrotourisme. Et puis, ils sont fiers, même fiers de nous aider à aller de l'avant.
Très bien. Est-ce que la viabilité de votre projet, hein, vous avez parlé de 40 ans d'exploitation, est-ce que la viabilité à l'avenir est assurée? Est-ce que ça a compté aussi dans l'octroi de cette aide? Est-ce que la relève est assurée?
Alors justement, pour pouvoir partir avec un tel projet, il faut assurer une relève. Et donc, j'ai pu l'assurer, donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait grand plaisir.
Vous l'avez assuré comment? Vous avez mis des annonces ou bien c'est simplement en famille que ça se passe?
Non, alors c'est en famille que ça se passe. Nous avons trois filles adultes. Et puis donc, on peut dire que les trois sont assez motivées pour reprendre cette exploitation et continuer justement dans les activités touristiques.
L'agriculture, c'est pas simple, c'est un sublime travail, mais c'est pas simple, d'autant plus en montagne. Là, on parle d'aide suisse aux montagnards, vous êtes aux franches montagnes où les conditions sont plus rudes qu'en plaine. Malgré tout, vous y croyez encore et votre motivation n'a pas pris une ride.
Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être motivé, au 200%, aimer son métier pour pouvoir continuer dans les choses qu'on fait. Donc, parce que c'est vrai, comme vous le dites, ça vient de plus en plus dur. Puis il faut crocher, aller de l'avant.
Eh bien, Gabriel Reiss, on va vous laisser vous occuper de vos vaches en vous remerciant infiniment d'avoir fait une parenthèse dans Place Publique pour nous rappeler que c'est important de soutenir l'aide suisse aux montagnards qui lance donc dimanche sa collecte de fonds pour 2017. On vous souhaite une bonne soirée et tout bon pour la fin de cet hiver.
Mais merci, de même à vous, une toute bonne soirée, au revoir.
Toute bonne soirée, au revoir. Et c'est ainsi que s'achève Place Publique, c'est tout pour ce soir. Vous retrouvez cette émission sur nos applications, bien entendu, ou tout à l'heure sur nos sites internet rjb, rtn, rfj.ch. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.